Chapitre 2. Un monde nouveau. Ces collines bleues à l'horizon, ces vastes champs moissonnés et ces bouquets de chênes, cette jolie rivière brillante qui se perdait au loin dans le gris vaporeux des oserais, les villages semés ci et là comme de gros points de verdure sur le réseau blanc des chemins, c'était en vérité un monde nouveau pour Ferdinand, accoutumé aux sapinières, aux vallées resserrées de son Jura. Perché sur une éminence rocheuse et abrupte qui dominait le village à ses pieds, Château Pointu n'était qu'une tour et une terrasse. Le reste, pierre à pierre, s'était effondré, et c'est à peine si les cuisines, le garde-manger et la dépense et le bûcher étaient à l'abri dans le coin d'une aile branlante enfouie sous le lierre. La tour était grosse, ronde, encore solide, coiffée d'un toit extraordinairement élancé et aigu, aux arêtes de plomb, d'où s'élevait, comme pour allonger encore vers les nuages cette silhouette pointue, la haute aiguille d'un paratonnerre. La tour avait 4 étages, si l'on comptait le rez-de-chaussée, et chaque étage comprenait une seule chambre, ronde comme la tour, enserrée d'une maçonnerie épaisse de 4 pieds au moins, ce qui faisait que les longues fenêtres étroites percées dans cette muraille semblaient se trouver chacune au fond d'une petite alcôve. C'était par les couloirs de l'aile que l'on accédait autrefois aux chambres de la tour. Maintenant que ces couloirs obstrués et ces escaliers démolis n'étaient plus praticables, il avait fallu trouver une autre voie. On avait établi, au centre de la chambre ronde du rez-de-chaussée, un escalier en colimaçon, une légère spirale de fer qui, montant au plafond, le perçait, pénétrait comme une vrille dans la chambre supérieure et poursuivait cette ascension d'étage en étage jusque sous le toit pointu, dans le grenier, rond également, où dormaient les fameuses caisses dont la légende avait accompagné Million à bonne grâce. Donc, pour parvenir à la 4e chambre de la tour, il fallait ou bien avoir des ailes et y entrer par les fenêtres, ou bien déranger les habitants des 3 autres chambres en passant chez eux par le tire-bouchon. C'est ainsi que Françoise nommait l'escalier en spirale. Cette excellente femme et son mari, 2 serviteurs à l'ancienne mode, occupaient la chambre d'en bas. Au-dessus d'eux, Louise s'était fait un nid à son gré, et sa grand-mère, afin de n'être pas troublée dans ses méditations par des allées et venues, avait choisi le 3e étage. Au 4e se trouvait la chambre d'amis, très rarement occupée. Quant à la terrasse, avec ses tilleuls, avec son promenoir sablé, toujours sec, avec sa guirlande de géraniums écarlates et de bégonias, caressant les pierres austères et grises du pied de la tour, avec ses meubles rustiques éparpillés, son parapet de granit, sa vue délicieuse sur une contrée aussi charmante que peuvent la faire des eaux, des blés et des bois, la terrasse était certainement l'appartement le plus agréable de Château Pointu. Louise, durant la belle saison, y passait ses journées, y prenait même ses repas quand sa grand-mère se décidait à descendre. Et Ferdinand, arrivé de la veille, fatigué d'adieux, de larmes, d'émotions, troublé de quelques craintes à l'entrée d'une vie si nouvelle, Ferdinand jouissait du silence exquis, reposant, de l'ombre et du parfum calmant des tilleuls. Louise, allongée dans un fauteuil d'osier, fermait les yeux à demi et semblait triste. C'était bien toujours la même petite Louise Miserlet, à l'apparence insignifiante, au visage peu animé et sans teint. Sa toilette témoignait d'une indifférence complète sur ce grand sujet. Les cheveux, dont la nuance blond pâle, plus foncée et plus lustrée qu'autrefois, n'étaient nullement désagréables, ses cheveux trop tirés, trop serrés, ne se faisaient pas valoir. À sa main droite brillait une opale entourée d'un fil de petits diamants, semblable à la bague de Ferdinand. Par une jolie sentimentalité de pensionnaire, elle s'était promis, en quittant bonne grâce, de porter le même bijou et de le regarder souvent en pensant l'une à l'autre. « Tu réfléchiras encore !» dit enfin Louise, d'une voix un peu tremblante, sortant de son mutisme. « Je n'accepte pas ce refus comme définitif !» Ferdinand soupira, lasse de discuter et peiné aussi de voir à quel point elle affligeait son amie. « La question tient toute dans une coquille de noix, comme disent les Anglais, » fit-elle, tâchant de sourire. « Ta grand-mère, si elle me loge et me nourrit, me permettra-t-elle de lui payer ma pension ?»« Ferdinand, oh Ferdinand, comment peux-tu dire de telles choses, prononcer de tels mots ? s'écria la pauvre Louise, qui en même temps porta son mouchoir à ses yeux. « Tu sais que notre seul désir est de te faciliter l'existence. » « Mais je ne veux pas, moi, qu'on me la facilite !» répliqua Ferdine avec ce mouvement de tête un peu hautain qu'elle avait encore. « Mon gain de 100 francs par mois et la petite rente que papa m'a laissée, c'est largement, oui chérie, largement, de quoi vivre. Je viendrai te voir tous les jours, je te raconterai les épisodes de mon travail jusqu'à ce que tu cries grâce et merci. » Ou bien ce sera Mademoiselle la Châtelaine qui descendra de ses créneaux pour visiter son ami du village. Nous nous verrons continuellement. Mais permets-moi de vivre indépendante et de payer chaque bouchée que je mange. Louise, je t'avertis qu'en pleurant ainsi, tu te ruines la vue pour des vieux jours. Laisse-moi louer une chambre chez cette dame très bien qui a fait des éducations en Angleterre. Je ne saurais souhaiter un chaperon plus convenable. » Nous irons demain, toi et moi, l'interroger respectueusement sur ses conditions. Tu m'aideras à me meubler. Me prêteras-tu des meubles, chérie? Vous avez des trésors de vieillerie dans ces bouts de corridors bloqués où s'ouvrent nos chambres. J'avais pensé d'abord à demander le nécessaire à Mademoiselle Caton, mais les frais et les difficultés de l'expédition sont trop grands. Et puis, interrompit Louise, tu sais que tu me rends heureuse en acceptant cela de moi. « Ah, je crois bien que nous te meublerons une chambre. Je me rends à tes raisons, puisqu'il le faut, et tu ne sauras jamais combien ce sacrifice me coûte. Mais à ton tour, tu me feras une concession, sinon je me brouille avec toi. » Louise, en disant cela, avait un air à la fois éploré et martial qui fit rire Ferdine. « Ne ris pas, mais écoute. Jure-moi que tu viendras chaque samedi soir à Château Pointu, que tu y passeras la nuit et que tu nous donneras tout ton dimanche sans en rien retrancher que pour les devoirs religieux naturellement. » Merci, dit Ferdine, tu me fais une obligation de ce qui sera pour moi une très grande joie. Nous aurons toute l'immense après-dîner du dimanche pour nous raconter nos histoires. Louise, murmura-t-elle d'une voix que des larmes firent défaillir tout à coup. Le jour où j'ai perdu mon pauvre père, j'ai cru que c'était fini pour moi d'être heureuse. Mais je sens, comment l'exprimer, un horizon qui s'ouvre, quelque chose qui vient à moi, du bonheur, du travail, et notre intimité qui sera si douce, et les lettres de Siméon. Je le sais, lui aussi, d'un cœur courageux et content dans le grand chemin de la vie. Te souviens-tu, Louise, de notre dernière heure avec Mademoiselle Octavie, dans le petit salon fraise ? Louise inclina la tête, trop émue à se souvenir. Quand nous nous sommes agenouillées toutes les trois et que nous avons promis à Dieu, toi et moi, de donner notre vie au bien, ce n'était qu'un vœu. Nous ne savions pas du tout ce qui en sortirait. Ne crois-tu pas, Louise, qu'il se prépare pour nous quelque chose à faire? S'il ne m'était pas permis de prendre soin de toi et de t'aimer, non, je ne le croirais pas, répondit Louise.